10h, 11h, Rencontre avec Samia Messaoudi sur Beurre FM.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être à l'écoute de Beurre FM. Merci de votre fidélité hebdomadaire. Le plaisir ce dimanche matin d'accueillir Karima Benoun. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être venu ce dimanche matin nous présenter « Votre fatwa ne s'applique pas ici ». C'est le titre de votre ouvrage, il vient de paraître aux éditions Temps Présent. Vous êtes, Karima Benoun, pour vous présenter, professeur de droit international à l'Université de Californie. Vous avez été consultante sur les droits humains pour de nombreuses instances internationales, dont l'UNESCO et l'ONG Amnesty International. En 2015, vous êtes observatrice volontaire des élections en Tunisie. Enfin, vous êtes l'auteur de cet ouvrage qui vient de paraître en France. On va rappeler que cet ouvrage était déjà paru, évidemment, aux États-Unis, là où vous vivez. Et vous êtes depuis 2015 rapporteur spécial aux Nations Unies dans le domaine des droits culturels. Vous êtes l'auteur d'un rapport sur l'impact du fondamentalisme et de l'extrémisme sur les droits culturels des femmes. Enfin, je suis ravi de vous accueillir ce dimanche matin à Beurre FM.
Je suis très honorée d'être avec vous aujourd'hui. Merci.
Merci, Karima Benoun. Alors, entrons effectivement dans cette somme de travail, parce que le livre, il est important, il est très lourd. Ça veut dire qu'il est porteur de beaucoup, beaucoup d'histoires, de témoignages, d'éclairages sur cette question qui est en sous-titre dans votre livre. Il s'oppose aux terroristes fondamentalistes dans le monde musulman. Voici leurs histoires. C'est pas rien que d'être à l'écoute de ces hommes et de ces femmes. Beaucoup de femmes témoignent et racontent leur histoire, leur vécu, leur quotidien dans ces sociétés musulmanes. Où est apparu, où s'est développé ces dernières décennies ce fondamentalisme? Alors peut-être commençons par le commencement, si je puis dire. Quand on parle de fondamentalisme, de quoi parle-t-on?
J'utilise dans le livre la définition qui a été écrite par une grande sociologue féministe algérienne qui s'appelle Mariamé Eli Lucas. Et cette définition, je pense que c'est très important. Elle dit que les fondamentalismes, et là il faut voir, il y a un S, les fondamentalismes, parce qu'il y a des fondamentalismes aujourd'hui malheureusement dans presque toutes les religions du monde, les fondamentalismes sont des mouvements d'extrême droite qui, dans un contexte de mondialisation, utilisent la religion pour prendre le pouvoir politique, c'est-à-dire utilise la religion comme outil politique. Et il me semble que c'est très important de souligner le côté politique.
Dans ce côté politique, c'est ce qui est apparu dans... Il y a une somme de travail, de réflexion dans votre livre sur l'Algérie, sur d'autres pays du monde musulman, du Maghreb ou du Moyen-Orient. C'est des expériences qui ont été, que vous avez rencontrées auprès des hommes et des femmes qui ont vécu ce fondamentalisme d'une société musulmane où d'un seul coup est apparue l'affirmation politique, cette détermination politique d'ancrer ce fondamentalisme dans les sociétés.
Ce qui m'étonne au niveau international, c'est que tout le monde veut parler du fondamentalisme, surtout de l'islamisme, surtout du terrorisme islamiste, mais personne ne veut écouter les gens qui l'ont vécu pendant longtemps, c'est-à-dire qui ont été les premières victimes. Donc pour moi, c'était tellement important surtout d'aller vers ces gens-là partout dans le monde. Donc j'ai récolté 300 interviews avec 30
pays différents
qui venaient de 30 pays différents, pour la plupart des pays à majorité musulmane, de Afghanistan jusqu'au Mali, mais aussi parfois dans les diasporas, c'est-à-dire au Canada, en France, aux États-Unis. Et justement, c'était important de montrer que si le fondamentalisme commence à être ancré, comme vous avez dit, dans beaucoup de pays, malheureusement, en même temps, il y a une résistance locale et qu'il faut vraiment commencer au niveau international d'écouter ces voix-là.
Ces voix de résistance.
Ces voix de résistance, exactement.
Alors, ce fondamentalisme qui s'impose, qui s'installe dans les sociétés, qu'est-ce qui a fait qu'il s'est imposé, s'est installé dans les sociétés, à votre avis, Karima Benoun?
Il me semble que ça dépend du contexte. Et il me semble qu'il y a toujours des facteurs externes et internes. C'est ce que me disait toujours mon père, qui était anthropologue, professeur d'anthropologie à l'Université d'Alger, que c'était important de comprendre que dans chaque contexte, on est face à des facteurs externes et internes, ou bien des causes externes et internes. Externe, bien sûr, les causes sont que malheureusement beaucoup d'argent a été envoyé à certains mouvements intégristes pour les soutenir, à des institutions intégristes pour soutenir ce projet. Ce n'est pas arrivé par hasard comme ça, mais en même temps, dans chaque pays, il y a aussi des facteurs internes, soit les problèmes des droits humains, soit le problème de développement, soit le problème de chômage, soit le problème de l'éducation et comment on fait l'éducation, le curriculum, qu'est-ce qu'on enseigne exactement, soit le problème de réforme religieuse, soit les problèmes, les enjeux politiques. Il faut vraiment comprendre que même s'il y a des facteurs en commun, chaque contexte est différent.
Chaque contexte, chaque pays a une pratique différente d'imposer ce fondamentalisme, donc dans un nouveau projet de société, du coup. On retrouve là une transformation de la société.
Et ça, je trouve que c'est très important à souligner, parce que parfois, on dit que c'est des forces traditionnalistes. Et ce n'est pas du tout la vérité. Dans la plupart des pays, on parle des mouvements qui veulent changer tout à fait la façon de vivre des gens, leur comportement, leur habillement, leur pratique, même leur pratique religieuse. Parce qu'on est en face, par exemple, des mouvements intégristes en Afrique de l'Ouest qui détruisent des mausolées qui sont très importants dans la pratique de la religion au niveau local. Donc, il me semble que c'est très important de souligner, on ne parle pas des forces traditionnalistes.
Alors, on va essayer d'entrer dans les témoignages et dans cette somme de travail que vous avez fait. Je le rappelle, vous avez rencontré plus de 300 personnes qui témoignent de leur combat, de leur résistance à ces fondamentalismes. Comment vous avez opéré? Vous êtes allé à la rencontre de gens que vous connaissiez pas sans doute quand c'était un peu plus loin, j'imagine. Mais en tout cas, comment vous avez travaillé pour construire à la fois cette récolte, si je puis dire, d'entretien et ensuite cette restitution que vous nous faites dans ce livre « Votre fatwa ne s'applique pas ici ».
Ça n'a pas été facile de tout.
Ça a pris beaucoup d'années, je crois.
Beaucoup de temps. Mais ça m'a touchée tellement que je pouvais continuer. J'aurais pu récolter mes 600 interviews si j'avais le temps. Le réseautage était très important. Donc, moi, je travaille dans le domaine des droits humains et surtout les droits des femmes depuis longtemps. Donc, heureusement, j'avais beaucoup de contacts, surtout dans les mouvements féministes dans ces pays. Donc, j'ai commencé par là en envoyant des messages pour demander aux gens d'abord quel pays est-ce que je devrais essayer de visiter et puis quels gens est-ce que je dois voir. Et c'était intéressant dans chaque pays, même si j'interrogeais, par exemple, des gens qui n'étaient pas des mouvements féministes. Et je posais la question, mais je dois voir quel genre, je dois interviewer quel genre. On commençait toujours avec les militantes pour les droits des femmes parce qu'elles étaient toujours devant dans cette lutte courageuse contre le fondamentalisme. Parce que toujours c'était elles, il me semble, qui ont compris plus tôt que les autres le menace que ça représentait pour les droits humains.
Elles l'ont compris parce que c'est elles qui le subissaient.
Elles étaient parmi les premières cibles, leur comportement, leur habillement, leurs droits, etc. Et ça, c'est au niveau mondial. Et ça aussi, on peut dire, c'est au niveau mondial avec les autres formes de fondamentalisme et d'intégrisme aussi.
Parce que y a une diversité dans les pays musulmans, comme vous le soulignez très bien, que ce fondamentalisme s'installe, mais il y a un dénominateur commun quand même. C'est effectivement une cible. C'est les femmes, c'est le comportement, c'est l'habillement, etc. On retrouve ça dans toutes les sociétés musulmanes qu'impose le fondamentalisme, imposer le hijab et plus la tenue de la robe longue pour les femmes, des interdits qui ont réapparu, des interdits religieux qu'on ne voyait pas. Je pense à vous en parlez aussi. Il y a un témoignage, il me semble dans le livre, autour de les anniversaires, il y a des tas de choses quotidiennes qui existaient dans les sociétés musulmanes, joyeuses, et qui n'existent plus aujourd'hui, dues au fait fondamentaliste.
Oui, et il me semble c'est aussi l'idée que chaque question politique est quelque part à la base une question religieuse. Et il faut toujours avoir l'avis des autorités religieuses, même si eux, ils n'ont pas l'expertise dans le domaine. Par exemple, les questions même sanitaires, les questions de gestion. Et ça, il me semble que c'est vraiment une idée très dangereuse.
Au niveau des témoignages que vous avez récoltés, Il y a des témoignages qui vous ont semblé très très différents selon que ça soit en Algérie, en Égypte, au Pakistan ou en Afghanistan. Qu'est-ce qui différencie, dans un premier temps, on verra après ce qui rassemble la pratique des fondamentalistes.
C'est comme vous l'avez bien dit. Il me semble que j'ai vu dans beaucoup de pays aussi qu'on cible les intellectuels des manières différentes. Ça dépend du contexte. Soit
ça c'est le propre de l'extrémisme, hein, de l'extrémiste de droite, l'extrémiste politique, cible les intellectuels, les journalistes, la culture aussi.
Oui, on cible les intellectuels, on cible les journalistes, on cible les femmes et les militantes pour les droits des femmes. Surtout, on cible les minorités. Ça, c'est aussi quelque chose de très important. On cible, comme vous l'avez dit, les pratiques culturelles. On cible la diversité, l'idée même de la diversité. Et je pense, pour moi, cette côté de diversité était tellement important de souligner. Par exemple, j'ai rencontré des personnes, mais tout à fait différentes, et je voulais montrer et surtout dans le contexte anglophone où je suis aux États-Unis, la diversité des gens qu'on dit musulmans. C'est-à-dire maintenant, dans le après 11 septembre, on appelle tout le monde des musulmans. Ils n'ont pas d'identité nationale, régionale, culturelle, ethnique, politique. Et là, je voulais vraiment montrer dans le livre, par exemple, on trouve des athées, mais qui sont des personnes de culture musulmane, c'est-à-dire qui ont vécu dans des pays à majorité musulmans, qui sont issus des familles de culture musulmane, etc. Et aussi, j'ai interviewé des croyants, des pratiquants laïcs qui aussi, eux, militent contre les intégrismes, les fondamentalismes. J'ai interviewé des blogueurs et des femmes au foyer. Pour moi, c'était vraiment important de montrer toute cette diversité.
On va revenir dans une deuxième partie de notre rencontre, justement sur les témoignages pour rendre vivant notre rencontre au travers ceux que justement vous avez rencontrés. Quand vous rencontrez ces personnes, pour avoir une idée un petit peu de comment vous avez fonctionné, ils vous livrent leur histoire, comment vous organisez justement ce travail de rencontre avec des hommes, des femmes qui témoignent de ce que nous avons dit là, de l'ancrage fondamentaliste dans leur société, dans leur quotidien.
Ça n'a pas toujours été facile du tout au niveau logistique. Ça dépendait de la situation sécuritaire du pays. Et ça dépendait aussi du temps. Et le problème, c'est que surtout si vous demandez à quelqu'un de raconter une histoire très dure dans leur vie...
C'est difficile de se livrer.
C'est difficile et ça prend du temps. Heureusement, dans certains pays, par exemple l'Algérie, j'ai pu revenir à plusieurs reprises. Parce que je peux dire, il y a une famille, ça leur a pris 3 ans pour décider de m'accorder l'interview parce que c'était très dur pour elles. Et on a parlé pendant toute une journée et on est restés ensemble. Malheureusement, dans d'autres pays, j'avais pas cette possibilité.
On va revenir dans une deuxième partie de l'émission sur justement comment vous avez construit ces rencontres dans ces pays musulmans auprès d'hommes et de femmes qui témoignent de leur résistance au fondamentalisme.
Rencontre revient dans un instant. 10h, 11h, Rencontre avec Samia Messaoudi sur Beurre FM. Beurre FM.
Poursuivons notre rencontre. Je rappelle que je reçois ce dimanche matin Karima Benoun. Elle est l'auteur de « Votre fatwa ne s'applique pas ici », un livre qui vient de paraître aux éditions Temps Présent. Il vient de paraître en France et Karima Benoun me rappelait en préparant cette émission que ce livre était déjà paru aux États-Unis, n'est-ce pas ? C'est une traduction à destination de la francophonie finalement, donc ça donnera une ouverture encore de lecture de votre travail. C'était important aussi qu'il soit traduit en français, votre livre.
Absolument, c'était important, mais je dois dire, au début, je l'ai écrit pour le monde anglophone, surtout parce que j'étais très touchée par le fait de ce qui s'est passé en Algérie pendant les années 90, n'était pas connu dans ce monde-là. Et je pensais que dans le après 11 septembre, on avait beaucoup de choses à apprendre de l'expérience algérienne et de la courage des Algériens, vraiment de leur résistance face au terrorisme.
Alors justement, puisque vous parlez du 11 septembre, on est dans le 11 septembre 2001, quand on sait ce qui s'est passé, le monde entier le sait, et le monde entier va regarder autrement le musulman. Qu'est-ce qu'on peut répondre à cela ? Qu'est-ce que vous pensez de cela ?
Tout d'abord, il me semble, c'est comme je disais, on est devenu ce jour-là des musulmans, c'est-à-dire que des musulmans.
Plus d'identité, comme
maintenant,
vous le rappeliez.
Oui. auparavant aux États-Unis, on nous appelait des Arabes américaines, mais cette identité est disparue quelque part. Et même ça, je sais qu'il y avait parmi nous aussi des gens qui n'étaient pas des Arabes, c'est-à-dire des ressortissants du monde arabe, mais qui étaient d'autres ethnies, et c'est très important de ne les pas oublier. Mais après le 11 septembre, c'est surtout l'identité religieuse qui a été comprise là, au niveau national, dans les médias aux États-Unis. Et là, je trouve que quelque part, c'est pas une très bonne vision. Ça perd encore cette question de diversité. Et aussi, il me semble que les gens, on se trouvait face à deux discours. C'est-à-dire le discours de certaines à droite, je dois dire certaines, pas tout le monde, que soit tous les musulmans soutenaient les terroristes, ou bien tous les musulmans étaient presque des éventuels terroristes, ou bien il y avait quelque chose dans l'islam qui donnait facilement au terrorisme, et il n'y avait pas d'autre terrorisme dans le monde. Ce discours est inacceptable, raciste, on le sait bien. Mais de l'autre côté, parfois, on se trouvait avec un discours à gauche, malheureusement aussi, qui stéréotypait, mais d'une autre façon, en disant quelque part que, chez certaines à la gauche, je ne peux pas stéréotyper la gauche non plus, que quelque part, soit les intégristes, leur action était justifiée, soit que c'était tous à cause du racisme qu'il y avait eu le problème de l'intégrisme et du terrorisme, c'est grâce à l'impérialisme, etc. Et il me semble, pour moi, les deux discours ne sont pas acceptables. Les deux discours n'expliquent pas la complexité de la réalité. Et justement, ce que je voulais faire, c'est de construire un autre discours basé sur les paroles des gens, sur les lignes de front.
Alors justement, sur ce que vous venez de développer, qui est très intéressant, puisque c'était le regard et c'était la stigmatisation aussi qu'on peut porter aux musulmans, on sait aussi que souvent on a demandé, en Europe, en France particulièrement, aux musulmans de s'expliquer sur le terrorisme. On n'a pas, nous musulmans, eux, les musulmans, n'ont pas à s'expliquer sur le terrorisme. On s'explique sur... Les Français aussi peuvent s'expliquer sur le terrorisme. On nous assigne à manifester, nous musulmans, contre le terrorisme. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que c'est pas l'affaire que des musulmans, le terrorisme. C'est l'affaire de tous pour combattre l'intégrisme et le terrorisme. Pierre-Paul Jacques peut manifester contre le terrorisme. Il n'y a pas que Mohamed qui doit manifester contre... Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a cette idée d'assigner les musulmans à aller manifester, à aller, etc. Donc, je ne sais pas si dans les sociétés anglo-saxonnes, on le retrouve. En tout cas, dans les sociétés occidentales, en France, en Belgique, là où il y a eu l'horreur ces 3-4 dernières années, on est dans quelque chose de très... montrer du doigt les musulmans.
Je vais vous donner mon opinion sur cette question qui a été souvent débattue aux États-Unis. Je pense qu'il n'y a pas, absolument pas, de culpabilité collective, si je peux le dire comme ça. Absolument pas, ça n'existe pas. Donc, personne n'a le devoir de s'exprimer là-dessus à cause de ses origines. Mais pour moi, en tant que personne d'origine algérienne habitant aux États-Unis, en tant que personne qui est fière de la culture musulmane de la famille de son père, je dois dire que moi, je veux m'exprimer. Je veux dénoncer ceux qui essayent de justifier des crimes, des atrocités en utilisant la culture, la religion qui est tellement important pour cette partie de ma famille. Donc, et ça c'est un choix personnel.
Oui, à titre personnel, on peut aussi se mobiliser, dénoncer cette horreur. Mais mon interrogation est plus sur le fait qu'on assigne la collectivité musulmane à dire, ben comment vous n'y allez pas? Quand un chrétien a tué des étudiants il y a quelques années d'Europe du Nord, le nom m'échappe, on n'a pas demandé à tous les chrétiens de manifester contre cette horreur.
Vous avez tout à fait raison, mais en même temps, je dois dire que nous pouvons avancer le débat, il me semble, si nous prenons la
collectivement,
parole.
Oui.
C'est la même chose, par exemple, pour les Juifs américains, qui ne sont pas du tout liés aux crimes, par exemple, du gouvernement israélien. Mais en même temps, ils peuvent jouer un rôle très important en dénonçant les exactions commises par l'État israélien c'est-à-dire parfois en disant que nous, nous sommes l'État de tous les Juifs, même s'il n'y a absolument pas de culpabilité collective. Je suis tout à fait d'accord. On peut jouer un rôle très important. Et moi, pour moi, personnellement, c'est une choix personnel. Je pense que c'est une responsabilité, surtout après avoir entendu les histoires des victimes du terrorisme intégriste en Algérie et ailleurs.
Alors justement, on va s'arrêter sur ces victimes du terrorisme. Je reprends de mémoire dans la lecture de votre ouvrage le témoignage d'une femme qui était infirmière à l'hôpital Frantz Fanon à Blida, qui est d'une grande dignité en même temps, qui a connu l'horreur, 35 ans infirmière dans ce grand hôpital au nom célèbre de Frantz Fanon, cet homme anticolonialiste algérien, antillais algérien. On est dans l'histoire de cette femme, dans quelque chose de bouleversant et de résistant en même temps. Rappelez-nous un peu de quand vous avez rencontré cette femme, comment elle a pris elle aussi du temps pour vous raconter ce qu'elle avait vu à l'hôpital dans cette période de décennie noire et ce qu'elle avait traversé avec un fils qui a souffert aussi de cette violence terroriste au sein de la maison, puisque des terroristes sont apparus dans la maison.
Oui, c'est une histoire qui m'a beaucoup touchée. Malheureusement, cette femme est décédée maintenant. Quand je l'ai rencontrée, elle était paralysée et je l'ai trouvée même sans lit médical, dans un état très grave, soutenu par des associations des victimes de terroristes, mais vraiment laissée quelque part seule. Et elle a été très courageuse. Elle a perdu. Elle a été paralysée lors d'un attentat à ce qu'on appelait un Heb en Algérie, à Blida, qui a été envoyé sur la ville par le groupe islamique armé. Et ce que je vais jamais oublier, c'est que cette femme, quelque part, n'a pas perdu le courage, même si elle était
alitée,
même si elle était paralysée, elle résistait toujours avec son esprit et elle s'exprimait toujours fort et clair contre le terrorisme. Et je vais jamais oublier cette femme de la vie, mais ça me rend vraiment triste que quelque part on a oublié toutes les personnes comme elle au niveau international. Et ça, il faut absolument changer.
En tout cas, votre livre sera un témoignage de ces histoires qui ont meurtri le monde musulman depuis des décennies. Un peu plus loin dans votre livre, il y a des témoignages en Somalie aussi. C'était alors que la Somalie nous parle encore aujourd'hui, hein, il y a quelques jours, des attentats, près de 300 morts par des extrémistes religieux. On n'en a pas fini.
Je tiens tout d'abord à exprimer ma solidarité avec les Somaliens aujourd'hui, ma solidarité avec le peuple de Mogadiscio après les attentats terribles qu'on a vus récemment, qui en fait, il me semble maintenant, on dit 200, plus de 250
près de, ouais,
morts.
Près de 300 morts, oui.
Et je pense que c'est tellement important que dans les médias, on nous rapporte les histoires des victimes, les visages, les noms des personnes. Ce ne sont pas des chiffres, parce que c'était en Afrique. Ce sont des personnes comme toutes les autres victimes du terrorisme du monde. Moi, malheureusement, je n'ai pas eu la possibilité d'aller au Somalie, mais j'ai récolté des interviews avec les personnes dans la diaspora somalienne aux États-Unis, surtout dans le Minnesota, au plein milieu des États-Unis.
C'est un quartier somalien avec toute une dynamique aussi de politique, hein. C'est aussi des gens engagés, de ce que je comprends en lisant les rencontres des Somaliens.
Absolument. Donc, il y a dans la ville de Minneapolis ce qui s'appelle le Petit Mogadiscio. Et vous avez tout à fait raison. Là, on trouve le plus grand nombre des Somaliens aux États-Unis, qu'il y a aux États-Unis dans cette ville. Et j'ai interviewé, par exemple, une personne que je ne vais pas oublier, M. Abdelrazak Bihi. M. Bihi a perdu son neveu, qui a été parmi une petite groupe, et je souligne une petite groupe, des jeunes Somaliens américains qui ont été recrutés par Al-Shabaab. Et ça, c'est dans les années 2000. C'était en 2008. Et il a été recruté, ce jeune qui est venu de Somalie quand il avait 2 ans, qui ne connaissait pas le Somalie, il ne savait même pas ce que c'était. C'était un lycéen qui voulait être médecin. Et il a été recruté par Al-Shabaab, emmené en Somalie. Et il a été tué par Al-Shabaab quand il voulait retourner chez lui. Et maintenant, il y a son oncle qui milite contre le recrutement recrutement par El Shabab des autres jeunes et qui dit qu'il veut jamais voir arriver aux autres familles ce qui est arrivé à sa propre famille. Et c'est pas du tout facile la lutte qu'il mène, parce que parfois même la mosquée dans laquelle son neveu apparemment a été recruté, et je souligne, c'était pas par la mosquée, mais c'était dans l'espace de la mosquée par des recruteurs d'El Shabab. La mosquée s'est opposée au travail de Monsieur Bihi en le dénonçant comme l'ennemi de l'islam. Et Monsieur Bihi, il a tout à fait une vision différente. Il dit, moi, j'essaie de protéger la religion que j'aime d'une petite groupe des extrémistes.
Dans votre livre, il y a d'autres témoignages qui sont tout aussi forts que celui que vous exposez là et qu'on a entendu avant sur cette femme de Blida. Est-ce qu'on peut dire que dans tous ces cette somme d'entretien, c'est assez féminin, c'est les femmes musulmanes qui souffrent le plus de ce fondamentalisme? Quelle analyse faites-vous au travers les rencontres et de manière générale dans les sociétés musulmanes aujourd'hui?
Je dois dire que beaucoup de personnes souffrent, hommes et femmes, enfants et vieux et vieilles. Mais surtout, je dois dire que le plus long chapitre dans le livre, j'aurais aimé faire deux chapitres, ça raconte les histoires des militantes pour les droits des femmes, des militantes féministes du Pakistan au Palestine, de l'Arabie Saoudite à l'Iran. Et c'est pas par accident que c'est le plus long chapitre. Il me semble que, comme vous avez déjà dit, les femmes sont ciblées en première et aussi elles prennent conscience parfois plus tôt que les hommes. Ou bien je dois souligner pas que les femmes, mais les féministes surtout.
On va y revenir dans une dernière partie de notre émission parce que c'est un passage important de votre livre.
Rencontre revient dans un instant. Rencontre avec Samia Messaoudi sur Beurre FM.
Votre fatwa ne s'applique pas ici, c'est le titre de l'ouvrage de Karima Benoun. Elle est l'invitée de Rencontre ce dimanche matin. On aurait encore longtemps à parler avec Karima Benoun parce que tout ce travail qu'elle a mené depuis plusieurs années, il aura fallu combien d'années, rappelez-nous, Karima Benoun, pour ce livre de témoignages, de rencontres que vous avez fait dans ce monde musulman.
J'ai commencé le travail en 2010, il y a 7 ans exactement, et puis le livre est sorti en anglais en 2013.
Et donc il vient de paraître, je l'ai dit tout à l'heure, mais rappelons-le, aux éditions Temps Présent en français, donc dans une maison d'édition en France. Votre fatwa ne s'applique pas ici, il est en librairie dès cette semaine. On parlait avant notre pause des femmes musulmanes qui subissent, violemment, j'allais dire, vraiment, le mot n'est pas trop fort, j'espère, ce fondamentalisme dans le quotidien, c'est ce que vous témoignent ces femmes. Vous avez aussi des témoignages d'hommes, vous l'avez rappelé dans ce livre, mais arrêtons-nous sur les femmes.
Donc, je dirais que c'est des femmes musulmanes et aussi des femmes de culture musulmane, parce que j'ai interviewé, bien sûr, des croyants, des agnostiques et aussi des athées de culture musulmane. Donc, je souligne cette diversité. Mais j'ai rencontré des gens magnifiques, des femmes magnifiques. Par exemple, je rappelle la fille d'un imam au Niger que j'ai interviewé, Aminatou Daouda, qui milite dans son pays pour l'application de la CIDEF, c'est-à-dire la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Et pour elle, c'est un projet qui est complètement en accord avec sa foi, en dépit de la campagne agressive des frères musulmans contre le CIDEF. Pour elle, c'est tout à fait en accord avec sa foi. Donc, c'est quelqu'un qui milite avec une vision religieuse, une vision de croyante. En même temps, j'ai interviewé, par exemple, une athée, Deep Saïda, à Pakistan, qui dirige l'Institut pour la paix et les études laïques, et qui organise souvent des manifestations à Lahore contre les attentats terroristes. Ou je pense aussi à Roya Bouramand, historienne et militante iranienne, dont le père Abdurrahman a été assassiné en exil ici à Paris par un escadron de la mort. Et maintenant, c'est ce qui m'a beaucoup touchée avec Roya, c'est qu'elle n'a pas seulement fait son deuil, mais aussi elle a créé une fondation qui porte le nom de son père pour soutenir les luttes pour les droits humains en Iran aujourd'hui. Donc, juste pour vous donner une vision de quelques femmes qui ne sont pas que des victimes, mais des résistantes,
des
militantes qui avancent. Et c'est surtout cette côté que je voulais avancer, parce que parfois aussi, on a le stéréotype aux États-Unis ou au niveau international des femmes musulmanes toutes court comme des victimes. Et ça, je ne voulais pas donner de tout.
Alors justement, elles sont résistantes. Si je puis me permettre, sans maladresse, vous avez une certaine sévérité en pensant progressiste laïque qui minimise justement la montée de l'islamisme fondamentaliste.
Oui, je dois dire que j'étais déçue parfois par mes amis à la gauche.
Vous dites même coup de gueule.
Mes amis dans le domaine des droits de l'homme, des droits humains, là où je travaille depuis 20 ans, mes amis progressistes en Occident, qu'il me semble, n'a pas compris qu'ils ne sont pas les seuls qui doivent se battre contre leur propre extrême droite. Eux, ils ont un grand combat à mener, bien sûr, aujourd'hui, ici en France, contre le Front National, aux États-Unis, contre l'extrême droite qui commence à avoir de plus en plus de pouvoir dans le pays.
Et en Europe en général, en Autriche.
En Autriche, oui, vous avez tout à fait raison, et ailleurs. Mais en même temps, les musulmans, les personnes de culture musulmane, dans les régions de l'Afrique du Nord, au Moyen-Orient, en Asie du Sud, eux aussi, ils ont leur propre combat à mener contre leur extrême droite. Et ils ont le droit de le faire et même le devoir, c'est très important. Et parfois, ça m'a vraiment attristée de voir que ce combat n'a, premièrement, pas été compris par la gauche en Occident. Deuxièmement, n'a pas été soutenu. Et encore pire, parfois, et je ne veux pas généraliser, parfois même à la gauche, on trouve même un soutien pour les intégristes islamistes qui militent en Occident. Et je trouve ça vraiment très, très grave. Et j'espère que les gens vont essayer d'écouter. C'est-à-dire, ce n'est pas le cas que vous devrez m'écouter, moi. Mais j'espère que vous allez, mes amis, écouter les voix des personnes en Algérie, en Afghanistan, au Mali, au Sénégal, en Asie centrale, etc. Vous allez entendre leur voix et vous allez changer votre politique là-dessus.
Vous avez raison de souligner qu'effectivement, en Occident et en France où nous vivons, beaucoup d'Algériens ici à nos micros qui étaient venus d'Algérie menacés nous ont rappelé avec beaucoup d'émotion et de détermination que ils s'étaient bien inquiétés d'avoir vu en France qu'on avait accueilli sur cette terre des droits de l'homme des terroristes et qu'on n'avait pas accueilli des démocrates. Donc ça confirme bien ce que vous nous dites là. Effectivement, il fallait savoir qui on devait accueillir ici en France. Sur votre engagement, vous êtes une personnalité importante et brillante sur la question des droits fondamentaux, des droits culturels. Vous êtes, je l'ai rappelé, rapporteur spécial aux Nations Unies dans ce domaine. Donc vous êtes à la fois de manière individuelle très attachée à écrire ce que vous avez dit là, parce que c'est à titre individuel, hein, cet ouvrage, votre fatwa ne s'applique pas ici. Et puis après, il y a l'autre partie importante de votre vie professionnelle qui est cet engagement institutionnel, officiel. C'est important d'être à la fois dans l'expression sur le terrain et puis dans l'expression officielle, parce que c'est une voix importante, la voix de l'ONU.
Merci beaucoup de l'avoir présenté comme ça, parce que pour moi, c'est toujours très important de faire la
différence. Le distinguo, voilà.
Ouais, entre mon travail à titre personnel, y compris l'ouvrage duquel on parle aujourd'hui, et mon travail maintenant, le bénévolat que je fais avec les Nations Unies comme rapporteur spécial des Nations Unies dans le domaine des droits culturels depuis novembre 2015. J'ai pris comme thème prioritaire, tout d'abord en 2016, la question de la destruction de patrimoine culturel, comme on a vu à Palmyre, mais aussi comme on a vu
à Tombouctou,
mais aussi dans l'histoire avec le patrimoine au niveau mondial des peuples autochtones. Donc vraiment, ça a été un problème international. Cette année, la priorité de mon travail, c'est de travailler justement sur la question des fondamentalismes avec S, des intégrismes et les droits culturels. Et je vais présenter mercredi, le 25 octobre, je vais présenter un rapport sur cette question, surtout focalisé sur les droits des femmes et l'impact des fondamentalismes et des intégrismes sur les droits des femmes au niveau de l'Assemblée générale. Et je vais faire des recommandations, surtout que si les gouvernements sombrent dans le relativisme culturel, vraiment, là, il donne un très grand soutien aux intégristes et aux extrémistes. Et si on veut vraiment lutter contre les extrémismes, les intégrismes, et quand je dis les extrémismes, j'inclus l'extrême droite en Occident, bien sûr, comme on le voit aux États-Unis, comme on le voit ici en France. Si on veut lutter contre les extrémismes et les intégrismes, l'idée de l'universalité des droits humains est très, très importante.
Karima Benoun, vous êtes à Paris pour quelques jours. Vous nous faites le plaisir, l'honneur d'être à Beurre FM ce dimanche matin. Vous êtes là pour présenter la sortie en France de votre livre. Je le rappelle, votre fatwa ne s'applique pas ici. Il vient de paraître aux éditions Temps Présent. Et vous étiez à l'ouverture du congrès d'un mouvement important de femmes en France, un mouvement féministe, Femmes Solidaires. Vous y avez été invitée. Qu'est-ce que ça a représenté pour vous d'être présente ce jour-là?
J'étais très honorée d'être avec des collègues féministes, surtout dans un monde où on voit la montée des intégrismes, des extrémismes de tous les côtés. Ces mouvements-là, soit des intégristes hindous, chrétiens, juifs, bouddhistes, musulmans, soit des extrémistes de l'extrême droite, qui souvent se focalisent les droits des femmes, qui essayent de faire reculer les droits des femmes. Donc j'étais vraiment heureuse et honorée d'être avec celles qui essaient toujours d'avancer les droits des femmes. Et je pense que c'est très important au niveau international d'avoir de plus en plus de solidarité. Justement, ces femmes solidaires, de solidarité internationale, entre les féministes. Au niveau international. Parce que les intégristes, les extrémistes, de leur côté, ils se solidarisent bien, malheureusement. Et ils travaillent entre eux stratégiquement. Et là, pour être vraiment un contrepoids important, il me semble que c'est très important aussi de tisser les liens.
Et au niveau international, ça grandit. Lors de ce congrès, il y avait aussi des femmes de la planète qui étaient là. Il y avait une femme algérienne importante aussi, une battante, Aïcha Bekti, qui était là. Mais il y avait aussi des femmes d'Amérique latine, parce qu'il y a d'autres préoccupations. La solidarité des femmes dans le combat féministe, il est important sur les questions de, comme on le souligne au cours de cette émission, d'extrémisme religieux, mais d'extrémisme politique aussi, puisqu'il y a des interdits. Puis des interdits dans la religion, il y en a aussi. Il y avait une femme polonaise, vous l'avez entendu, qui est l'extrémisme catholique aussi. Il existe, hein, avec des retours en arrière sur les droits des femmes. Tout ça est important et cette chaîne doit être de plus en plus grande.
Absolument, je suis tout à fait d'accord. Et je pense toujours à ce que m'a dit une féministe nigérienne, Zainabou Hadari. Elle m'a dit, chaque pas en avant pour les droits des femmes est un fait partie important de la lutte contre les intégrismes. Et je pense que c'est absolument vrai. Parfois, les gouvernements pensent, ah, la question des droits des femmes, c'est à part, c'est quelque part un luxe. Non. C'est une question clé si on veut vraiment avancer dans la lutte contre les extrémismes, les intégrismes et le terrorisme inspiré par ces extrémismes-là.
Et ces femmes qui ont témoigné dans votre livre, dans une partie de votre livre, hein, je le rappelle, il y a aussi des hommes qui témoignaient face justement au fondamentalisme, mais les femmes surtout, est-ce qu'elles évoquent la difficulté ou qu'elles ont à construire cette avancée contre les fondamentalistes, à avancer de manière combative, résistante? Est-ce qu'elles y arrivent? Est-ce qu'elles ont les moyens de le faire? Parce que c'est pas évident. Enfin, il y a une pression sociale, il y a tout un tas de difficultés à être résistante quand même.
Absolument. Les femmes m'ont dit, écoutez, il y a une résistance. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est les moyens. Le problème, c'est que nous n'avons pas ce qu'ont les intégristes. Nous n'avons pas les chaînes télévision. Nous n'avons pas des journaux, ou bien pas assez. Nous n'avons pas les moyens de nous organiser. Nous n'avons pas l'appui parfois des gouvernements qu'ont certaines intégristes. Donc là, je pense qu'il faut vraiment réfléchir à trouver des moyens, comment soutenir au niveau international ces luttes-là. Mais ce que je garde toujours avec moi, c'est l'optimisme.
Alors justement, j'allais terminer là-dessus, puisque je disais tout à l'heure que ce livre qui s'est écrit sur votre quatrième de couverture, est un coup de gueule, mais c'est aussi un peu de colère, mais beaucoup, beaucoup d'espoir.
Absolument, absolument. Je pense beaucoup, par exemple, à mon père Mahfoud Benoun, qui a vraiment mené un combat contre l'intégrisme en Algérie avec sa plume, même pendant qu'il était malade, même pendant les pires années du terrorisme, qui a perdu beaucoup de ses amis, qui a été menacé comme tout le monde. Lui, il aurait été le premier à le dire, comme beaucoup d'autres intellectuels, beaucoup d'autres militants. Mais il n'a jamais perdu l'espoir. Il a continué à écrire, à militer. Et je pense à une Afghane que j'ai interviewée à Kaboul en 2010, qui était dans une situation sécuritaire très très dure, et je lui ai posé la question: est-ce que vous êtes pessimiste ou optimiste? Et elle m'a dit: Karima, l'optimisme, c'est tellement important pour la survie.
C'est la force. Voilà les mots de la fin. Merci Karima Benoun, merci infiniment d'être venue ce dimanche matin à Beurre FM. Je rappelle le titre de votre livre, Votre fatwa ne s'applique pas ici. Ce livre vient de paraître aux éditions Temps Présent. Merci infiniment.
Merci à vous.
Pour ma part, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de rencontre. D'ici là, je vous souhaite une belle semaine. Au revoir à tous, au revoir à toutes.
10h, 11h, rencontre avec Samia Messaoudi.